Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Bonsoir à toutes et tous. Grand bonsoir, effectivement, toute la petite équipe du point d'accueil jeune de Brax qui nous fait le plaisir d'être ici. Et enfin, et surtout, bonsoir, Lord aussi. Ravi de vous retrouver. On était effectivement ensemble hier soir sur une commune à Saint-Jory. Quelques mots pour présenter Lord. Vous êtes journaliste spécialisé dans les questions de société. Vous avez travaillé pour divers médias, mais surtout pour Charlie Hebdo. Vous portez votre regard sur les inégalités sociales, la violence sexuelle, les normes de genre, vous explorez les enjeux féministes contemporains et vous êtes, et à ce titre ce soir, l'auteur, l'autrice plutôt de cet ouvrage, La Réputation. Alors, la mention de l'ouvrage me permet de saluer la présence de la librairie Renaissance qui a un petit stand à l'entrée de cette salle que vous retrouverez également à la fin et très probablement vous pourrez demander alors si vous le souhaitez, de mettre un petit mot, une dédicace sur les livres. Voilà, ce qui me permet également de vous dire que j'ai oublié de le faire. On va essayer de passer un petit moment à échanger entre nous, mais après, on va se donner les moyens d'échanger également avec vous. Vous allez pouvoir, vous aussi, poser des questions alors de manière directe. Je reviens à l'ouvrage qui a fait partie des quatre finalistes du livre du journalisme en 2024 qui était organisé par l'association Journalisme et Citoyenneté dans le cadre des Assises du journalisme. Et le livre a également été nommé pour le prix étudiant du livre politique. Voilà, et en dehors de cet ouvrage, Laure est toujours l'autrice de grands reportages, enquêtes publiés dans Charlie Hebdo. Vous avez été aussi une des rares journalistes à suivre le procès de l'assassin de la jeune Shaina, dont le verdict est tombé en juin 2023. Cette adolescente de 15 ans, on va y revenir sur ce récit, avait été poignardée puis brûlée vive par son petit ami. Et vous avez, pour écrire cet ouvrage, enquêté pendant un an à Creil, vous allez nous en parler, donner la parole à des dizaines de témoins, d'amis, de proches, de moins proches, pour tenter de comprendre comment les rumeurs à l'encontre de Shaina se sont propagées et quel rôle elles ont joué. Ce qui m'amène à la première question, toute simple, pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui vous a poussé à explorer ce thème des filles faciles, puisque vous dites vous-même dans la préface de l'ouvrage que vous avez d'abord fui le sujet?
Merci pour votre question, merci pour votre invitation tout d'abord, je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir. Alors, pourquoi avoir écrit ce livre? D'abord, j'ai travaillé sur l'affaire Shaina pour Charlie Hebdo. Et lorsque je me suis rendue à Creil, j'ai reçu le témoignage de plusieurs adolescentes de l'âge de Shaina qui me disaient avoir peur de subir le même sort que Shaina et d'être au quotidien sous la pression, la contrainte d'un certain nombre d'injonctions, d'un certain nombre d'interdits qui leur étaient imposés par quelques petits groupes de garçons notamment. Et cette situation, j'avais l'impression qu'on n'en parlait plus trop du sexisme vécu par les adolescentes des quartiers populaires. Et voilà, elles s'exprimaient, elles voulaient qu'on les entende et je me suis dit, il faut leur donner la parole. Et en plus, cette ville de Creil est au confluent de tant de problématiques contemporaines, a une histoire tellement particulière, a eu un retentissement national aussi. Et donc, je me suis plongée dans ce livre pour comprendre comment on en arrivait à cette situation.
Alors, avant d'en arriver à vous demander de relater pour tout le monde l'affaire Shaina, la succession d'événements qui ont conduit au procès et ce que vous en tirez, et puis de commencer à rentrer vraiment dans ce sujet des filles faciles. Cet après-midi, Vincent Gibert l'a évoqué dans son petit propos introductif, vous étiez dans un des quartiers de Toulouse, avec les femmes d'une association, l'école et nous, on va les citer. Question, qu'est-ce qu'elles vous ont fait comme retour après la lecture de La Réputation? Comment ça s'est passé avec elles et qu'est-ce qu'elles vous ont dit?
Alors déjà, moi, ça me tient à cœur de pouvoir intervenir auprès, quelque part, des premières concernées, des personnes qui vivent dans des quartiers, puisque j'ai enquêté à Creil, qui est un quartier dit quartier populaire. la terminologie change parfois entre cités, etc. Et donc, ça me tenait à cœur de pouvoir intervenir. Et j'étais ravie d'être invitée pour donc intervenir dans cette association L'École et nous. Alors, j'ai pu constater qu'effectivement, il y avait certaines incompréhensions par rapport à mon livre, mais en même temps, c'était intéressant d'avoir cet échange. Et c'est intéressant aussi d'être critiqué et d'avoir des personnes qui posent des questions pertinentes et qui parfois en fait ne comprennent pas forcément l'objectif de ce livre, et ça m'a permis de leur répondre et je comprends bien, parce que c'est toute la question au-delà de ça, de la manière dont on parle des quartiers populaires. Il y a toujours le risque de stigmatisation et de rentrer dans certains clichés. Et je sais bien que ce sont des sujets inflammables et qui sont souvent instrumentalisés. J'en avais bien conscience en écrivant ce livre. D'ailleurs, j'en parle dès ma préface, et ça m'a vraiment interpellée tout au long de l'écriture et au moment de la sortie du livre. J'avais peur que ce soit instrumentalisé, notamment par l'extrême droite. Et ce que je dis, ce que je réponds, c'est que je trouve que ce serait pire de ne pas s'intéresser au sujet. Mon objectif est de donner la parole aux premières concernées, et c'est ce que j'ai essayé de faire, de laisser la parole à ces adolescentes pour qu'on les entende, qu'on les écoute, plutôt que d'étouffer cette parole et de se dire n'en parlons pas par peur de stigmatiser. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait des associations comme Ni Pute Ni Soumise qui portaient cette parole-là. Et il m'arrive dans des interventions d'avoir des anciennes de Ni Pute Ni Soumise qui me disent enfin, on reparle de ce sujet, ou elles me disent aussi c'est désespérant parce que, d'une certaine manière, ça n'a pas forcément évolué, en tout cas dans certains endroits. Voilà. Donc c'était passionnant pour moi cet échange cet après-midi. Puisque ça, je ne sais pas si le message est passé, parce que j'entends aussi d'ailleurs, ce n'est peut-être pas le vécu aussi de toutes les femmes. Certaines me disaient, nous, on ne vit pas ça, on n'a pas ce vécu-là. Moi, je ne suis pas sociologue, je suis journaliste, donc je ne dis pas que j'ai enquêté sur tous les quartiers, j'ai enquêté sur des quartiers de Creil. Après, la question, est-ce que cette situation que je constate à Creil, elle se retrouve dans d'autres quartiers, probablement dans certains endroits, peut-être pas partout. En tout cas, parfois dans des conférences, j'ai des personnes qui me disent, hier soir d'ailleurs, une personne m'a dit, j'ai vécu la même chose dans mon quartier, donc je sais que ça parle. Donc voilà, la réception est toujours très partagée, parce qu'il y a des gens qui peuvent se sentir attaqués et qui veulent d'abord défendre leur quartier, et d'autres qui disent, mais enfin vous parlez de nous, et c'est vrai, et moi j'ai vécu ça moi-même, et il faut que ça change et qu'on mette tout coup. En tout cas, mon objectif est bien évidemment de donner la parole à ces femmes et pas de les stigmatiser.
Effectivement, on voit bien, je vous le disais hier, qu'à la lecture du livre, j'avais eu l'impression de tirer le fil d'une pelote et qui amenait au fil de tout un tas de questions. On va essayer de répondre aux principales, et puis très certainement dans la salle, il va y avoir des questions. Vous avez répondu partiellement à la question que je vais vous poser, mais je vais le faire quand même. Pourquoi aborder le sujet spécifiquement au travers du cas de China ? Vous avez dit notamment, ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. C'est terrible comme constat.
Alors, je crois que c'est important, au-delà de ça, de considérer que les violences faites aux femmes, ce sont des faits de société et pas des faits divers. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a traité les violences faites aux femmes, en tout cas les féminicides, qu'on n'appelait pas féminicides d'ailleurs, mais comme des cas isolés qui ne faisaient pas système, et sans comprendre que c'était un ensemble de violences qui avaient à peu près les mêmes logiques. Dans le cas des féminicides, le plus souvent, c'est lorsqu'il y a une rupture, par exemple, que la femme est assassinée. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet un peu de propriété, des hommes qui considèrent que leurs femmes sont leurs propriétés, et il y a un féminicide quand elle veut rompre ce couple. Et donc c'est important d'avoir en tête que ce ne sont pas des faits divers au sens où ce sont des faits isolés, mais effectivement des faits de société. Et ce qui concerne le féminicide de Chaïna, il s'inscrit dans les 156 féminicides de l'année 2019. Et ce qui me permet aussi de rappeler que les violences faites aux femmes sont absolument partout, dans tous les territoires et dans tous les milieux sociaux. Ce n'est pas parce que je me suis attachée à la ville de Creil que je considérerais que les violences faites aux femmes ne seraient qu'à Creil ou que dans les quartiers populaires. En revanche, c'est vrai que ça m'a semblé important, à partir de cette affaire de Chaïna, de dérouler la pelote, comme vous dites, et de comprendre comment on en est arrivé là, concernant ce féminicide-là. Et, puisque au-delà de ce féminicide, voilà, ce qui est intéressant, c'est toutes les autres adolescentes aussi, proches de Chaïna, qui vivent dans la même ville, et qui vivent, je dirais, une forme de sexisme peut-être spécifique, où tout un ensemble de contraintes leur sont imposées au quotidien. Et c'est peut-être cette spécificité-là qu'on retrouve. Autant le sexisme est partout, mais il n'est pas le même partout. Et là, il y a un certain nombre de contraintes qui leur sont imposées, de l'ordre de, elles me disent que leur fréquentation, leurs vêtements, leur attitude dans la rue sont scrutées, surveillées. Le curseur est plus ou moins fort selon les familles, selon le vécu de différentes personnes que j'ai rencontrées, mais par exemple, elles ne s'affichent pas dans la rue si elles ont un petit ami. Elles portent des vêtements amples, elles se doivent d'être discrètes, même avec un garçon qui n'est pas leur petit ami. Pour certaines, elles ne s'affichent pas avec un garçon qui n'est pas leur petit ami dans la rue. Elles ne se sentent pas autorisées à aller sur des terrasses de café. Et là, d'ailleurs, c'est pas que les adolescentes, c'est aussi les femmes plus âgées qui me disent, il y a quelques années, on allait dans les terrasses du café, aujourd'hui, on ne peut plus y aller. Non pas que ça leur soit interdit, hein, c'est important de préciser ça aussi, parce que parfois, on entend, ah, les terrasses sont interdites. Non, il n'y a pas d'interdit, mais elles ne s'y sentent pas autorisées, parce que ces terrasses sont un peu trustées par les hommes, et après, c'est un cercle vicieux qui fait qu'elles elles n'osent plus y aller. Donc, c'est ce vécu-là qu'elles m'ont décrit. Et c'est vrai que c'est un quotidien, c'est chaque jour réfléchir à ses vêtements, à son attitude et rentrer dans des clichés, respecter ses injonctions sous peine de sortir de la respectabilité, d'où le sous-titre Fabrique des filles faciles, puisque dès qu'on sort de ces codes, de qu'on ne les respecte plus, eh bien on est déconsidéré, il y a le risque d'être méprisé, de devenir une proie pour certains garçons. Et c'est ce qui est arrivé en fait à Chaïna.
Alors justement,
c'est l'occasion peut-être de rappeler
bien
un peu plus
de relater
en détail.
Brièvement, mais de relater quand même ce qui s'est passé. Quelle est l'histoire de Chaïna, puisque c'est le point de départ.
C'est le point de départ. Et parce qu'en fait, Chaïna donc, a été agressée sexuellement à l'âge de 13 ans. Elle a été l'objet de chantage. Le petit ami avec lequel elle sortait l'avait pris en photo par contrainte. Il avait obtenu d'elle des photos dénudées. Et ensuite, il lui a fait du chantage en lui disant « Je vais publier ces photos sur les réseaux sociaux si tu ne me rejoins pas dans une clinique désaffectée de la ville. » Clinique désaffectée étant un endroit où se retrouvaient parfois les adolescents. Et là, elle se rend dans cette clinique, donc avec contrainte par ce chantage, et à la clinique se retrouve, à la clinique dans ce lieu désaffecté et très glauque, il n'y a pas que son petit ami, il y a aussi deux autres amis de ce petit ami, et elle subit, d'après la plainte qu'elle dépose, elle subit un viol en réunion. Viol qui va être requalifié par la justice en agression sexuelle en réunion. Et à l'issue de cette agression sexuelle, elle va se propager dans toute la cité des rumeurs, une réputation la concernant. Les agresseurs vont propager dans toute la cité l'idée qu'elle est une fille facile. Donc une inversion totale, puisque c'était elle la victime, et en fait on en fait la responsable de son agression. Et c'est parce que ces rumeurs sont propagées dans toute la cité, ont été démultipliées, notamment aussi par les réseaux sociaux, on y reviendra, ensuite et n'ont pas été stoppées du tout par les pouvoirs publics, par la justice, etc. Ces rumeurs se sont propagées et 2 ans plus tard, à l'âge de 15 ans, elle rencontre un autre garçon qui a connaissance de la réputation de Chaïna et qui se dirige vers elle dans un mélange de convoitise et de mépris. Et elle tombe enceinte de ce garçon. Et là, à ce moment-là, lui, il décide, il préfère l'assassiner. plutôt que d'être le père de cet enfant. Et il dira même, il aurait dit à un codétenu, je préfère faire 30 ans de prison plutôt que d'être le père d'un fils de pute. Et donc on voit le mépris absolu et cruel dans lequel elle était tombée. Et donc il y a c'est pour ça que je dis d'une certaine manière la réputation est une des responsables de la propagation de ces réputations et de ces rumeurs. Ce système qui s'impose aux filles est un des responsables de son assassinat. Et voilà, d'où le titre de ce livre, parce que cette réputation est en fait une épée de Damoclès au-dessus de beaucoup de filles que j'ai interrogées. Et elles ont toutes peur de tomber dans cette mauvaise catégorisation. Si elles tombent dans la mauvaise catégorie dite des filles faciles, eh bien, elles ne sont plus dignes de respect, elles deviennent des proies pour certains garçons.
Alors, on voit vraiment bien cet enchaînement qui conduit à cette fabrique de la réputation. C'est vrai que fabrique, c'est vraiment, on sent bien la main dessus. D'une part, est-ce qu'il y a une typologie de femmes, de filles qui sont victimes de ce phénomène ? Est-ce que ça peut s'appliquer plus particulièrement à des profils particuliers dans ce que vous avez pu observer ? Vous avez précisé que c'était un travail de journaliste et pas de sociologue, on est d'accord là-dessus, mais en tout cas dans les femmes que vous avez rencontrées.
Dans mon terrain d'enquête, ça s'applique malheureusement possiblement à toutes les adolescentes. Indifféremment, voilà, il faut peut-être celles qui sont les plus fragiles, qui sont les plus mondes. Me disait Shaina est une fille très gentille, c'est vraiment ce qui ressortait à chaque fois pour la qualifier, et donc elle est devenue assez vite une proie. Et voilà, mais je dirais que c'est toutes les. Alors après, plus généralement sur le terme de la réputation, c'est un phénomène qui peut s'appliquer à beaucoup, et on est tous sensibles à notre réputation. Mais après, ça dépend quel curseur et quelle importance on y met. Et le problème, c'est que dans certains endroits, ça prend une place démesurée et que le respect, est en jeu le respect de la personne, et en l'occurrence c'est souvent les femmes qui sont le plus victimes. C'est vrai que les réputations étaient aussi très présentes dans les petits villages, et l'est encore d'ailleurs très certainement. Et voilà, mais en ce qui concerne mon terrain d'enquête, c'est vrai que c'est surtout sur les adolescentes que c'est le plus exacerbé, que c'est le plus présent.
D'accord. Est-ce que c'est un système qui est généralisé de domination, d'exploitation, ça s'appuie sur la logique patriarcale, ou est-ce que c'est le fait d'un tel, de tel ou autre, et notamment uniquement des jeunes ?
Alors, effectivement, c'était une bonne question pour comprendre qui est à l'origine de ça, parce que toutes les adolescentes que je rencontrais, ou les mères de famille aussi, me parlaient de « eux » comme une base informelle comme ça, qui planait au-dessus d'elles.
C'est le titre d'un chapitre.
Voilà, je me disais qui est ce eux. Et eux, c'est pas tous les hommes. Eux, c'est certaines personnes, certains petits groupes qui ont une certaine influence et un pouvoir de nuisance. Mais j'ai rencontré aussi, bien évidemment, plein de garçons qui se battent contre cette situation, qui font en sorte de s'opposer à ça, qui sont les premières victimes aussi de ce système-là. Et qui essayent de faire en sorte que ça évolue. Et puis il y a aussi ceux qui sont entre guillemets bien intentionnés, parce qu'en fait c'est une logique qui se mord la queue, si je puis dire. Enfin, c'est un cercle vicieux, puisqu'il y a ce phénomène des grands frères qui veulent protéger leur sœur. Aucun garçon va dire moi je vais surveiller ma sœur, je vais enfermer ma sœur, mais il va dire moi je veux la protéger parce que je sais que d'autres garçons sont pas respectueux, je sais ce qu'elle risque si elle a telle ou telle attitude, et donc moi je vais la protéger pour prévoir ce qui peut lui arriver. Même chose de la part des parents. Il y a une mère de famille qui me dit « Mais je sais que j'emprisonne ma fille, je l'interdis plein de choses pour éviter qu'elle soit victime. » Parce que Shaina, les parents de Shaina, eux, ils ont perdu leur fille. Donc on ne veut pas que ça nous arrive à nous aussi. Donc vous voyez, il y a cette espèce de cercle vicieux dont on ne sort jamais, puisque chacun veut bien faire, mais ça contribue, voilà, à nourrir ces contraintes et cette surveillance. Quand un grand frère dit, moi, j'empêche ma sœur de sortir ou j'empêche ma sœur de s'habiller en jupe, c'est éminemment patriarcal et ça n'a pas lieu d'être. Mais de son point de vue, c'est une forme de protection.
Mais pas que, puisque dans votre propos précédent, il y avait, ça m'a amené à penser à la question de la réputation des pères.
Oui, et effectivement, la réputation, c'est vrai que c'est pour ça que c'est un fil rouge, c'est que ça s'applique à tout le monde. Et en fait, des pères eux-mêmes me disent que c'est ma propre réputation qui est en jeu, parce que si on pense que ma fille est une traînée, je perds ma dignité de père. Et j'ai ému ces propos très glaçants d'un père de famille qui me dit, alors on est vraiment dans l'extrême, hein, mais je préfère que mon fils soit en prison plutôt que ma fille soit considérée comme une traînée. Et pourquoi ? Parce qu'il me disait, en prison, son fils purgerait sa peine, il sort de prison blanchi, alors que le fait d'être considéré comme une traînée, c'est le pire du pire, et que la fille ne pourra jamais se sortir de ça, se sortir de cette rumeur-là, de cette image-là, elle ne pourra pas trouver de bon mari. Voilà, pour lui, c'était vraiment le pire, quoi. Et je pense que derrière ça, il y a aussi en fait un double standard d'éducation, un double standard aussi dans la sexualité, une inégalité fondamentale entre les filles et les garçons, où une fille se doit d'être, souvent d'ailleurs ils le disent, c'est très tabou aussi, mais se doit d'être vierge pour le mariage, en tout cas se doit d'être pure, ça ne veut rien dire, mais c'est comme ça qu'ils le disent. Tandis qu'un garçon, lui, va être valorisé à l'inverse quand il va être dans la conquête et dans la séduction. D'ailleurs, le terme de fille facile n'existe que pour les filles. On ne dit jamais un garçon facile. Donc il y a bien une différence aussi dans le langage qui montre qu'il y a cette inégalité. Et voilà, je pense que c'est le socle, ce double standard-là qui nourrit ce système-là.
Alors effectivement, moi, ce qui m'a paru dans la lecture du livre, vous évoquez la notion de culture du viol, de la sexualisation des femmes. Quelle relation entre cette culture et la manière dont les femmes sont jugées faciles ? C'est quelque part, c'est la présomption de consentement, c'est ça ?
Alors, j'évoque la présomption de consentement parce que je lisais au moment où j'ai écrit mon livre, le livre d'Hélène Devinck, qui est une des victimes de PPDA, et qui est un livre très intéressant qui s'appelle « L'impunité ». Et dans ce livre, elle essayait de comprendre comment PPDA s'était cru autorisé à violer autant de femmes. Et elle parlait, je trouvais ce terme intéressant et j'ai repris son terme, c'est le terme de présomption de consentement. Elle disait en fait PPDA considérait que en tant que grand présentateur télé, personne ne pouvait lui résister et tout le monde avait envie en gros de coucher avec lui et que donc il partait du principe qu'il y avait une présomption de consentement de toutes les femmes qui travaillaient avec lui. Et ce qui en l'occurrence n'était pas le cas. Et donc je trouvais que ce terme était intéressant et j'essayais pour tracer des liens justement avec entre les territoires, si je puis dire, eh bien, de comprendre quelle était la présomption de consentement ici. Et en l'occurrence, en ce qui concerne Shaina ou d'autres adolescentes, eh bien, c'est justement le fait qu'elles sortent de la bonne catégorie. Parce que voilà, je crois que ce qui est fondamental, c'est de comprendre qu'il y a une catégorisation des filles en deux groupes. Il y a les filles respectables et les autres. Et enfin, les autres, donc, c'est les filles faciles, les putes. Enfin, voilà, chacun y met son terme. Et à partir du moment où on sort de la catégorie respectable, eh bien, on ne l'est plus, on devient une proie. Et je pense qu'il faut, c'est au cœur du problème de cesser cette catégorisation en deux groupes de femmes. Et ça, je pense que ça a eu lieu d'ailleurs dans toute la société française. Et même aussi dans la littérature ou dans l'histoire, c'est toujours la mère et la pute. En gros, je caricature, hein, et tout ça a évolué, bien évidemment, mais il y a des endroits où ça reste encore très, très présent. Et où ça n'évolue pas forcément et où ça s'impose beaucoup à ces adolescentes.
L'autre côté, ça m'amène une autre question, c'est est-ce que alors je vais faire attention à comment je la formule, est-ce que le rigorisme religieux est un acteur de ce contrôle social ? Est-ce qu'à un moment donné, la religion, et j'ai bien dit pas une religion, mais toutes les religions, on parlait hier soir des filles mères dans les campagnes françaises autour des années 60, par exemple, pour contrôler ces adolescentes, et notamment autour de cette injonction à la virginité, c'est le terme que vous employez dans l'ouvrage.
Alors, j'évoque effectivement ça, c'est ce facteur-là qui est indéniable, je crois, et qu'il ne faut pas avoir peur de dénoncer, n'est pas le seul. J'évoque un ensemble, j'essaye de comprendre comment on en est arrivé là. Et il y a un ensemble de facteurs et j'évoque d'abord les facteurs socio-économiques parce que en ce qui concerne la ville de Creil, il y a eu de grandes difficultés économiques avec la désindustrialisation massive qui a entraîné un chômage de masse, un chômage massif, une relégation territoriale, un abandon d'une certaine manière des services public et cette population qui s'est sur ce terreau de population en grande difficulté économique effectivement s'est implantée une forme de d'intégrisme religieux. Et j'ai rencontré pour mon enquête beaucoup d'acteurs sociaux et de relais associatifs pour comprendre, recueillir leur analyse aussi de la situation. Et parmi les personnes que j'ai rencontrées, j'ai rencontré un des imams de Creil, qui a la plus grande mosquée de Creil. Et j'ai trouvé qu'effectivement, il était une forme de relais de certains propos sexistes, parce que je lui faisais part de témoignages d'adolescentes qui me disaient que dans la rue, on avait pu les interpeller en leur disant « mais tu n'as pas à être en jupe, pourquoi tu te mets en jupe dans la rue ?» Et là, il me dit « ah, mais je vous confirme que la jupe est un interdit religieux ». Alors, première nouvelle, enfin, évidemment, c'est une interprétation, c'est son interprétation, et la religion, c'est souvent affaire d'interprétation. Mais c'est vrai que ça peut donner une clé aussi pour, en tout cas, ensuite, moi, j'entendais des garçons me dire l'imam nous a dit que, et reprendre ces propos-là. Donc, c'est aussi ce discours-là qui peut nourrir certains discours de surveillance et de certains discours du patriarcaux et voilà, qui veulent revenir vers des valeurs ancestrales. Et puisqu'on parlait de religion, c'est tout est affaire d'interprétation aussi et de ce qu'on en fait, parce que par ailleurs, je cite aussi dans ce même chapitre le grand frère de Chaïna, qui d'ailleurs a été d'une grande force et d'un grand courage dans cette affaire et qui a qui a soutenu sa sœur de son vivant quand elle était victime de ce harcèlement. Qui n'avait rien à voir d'ailleurs avec l'image aussi qu'on peut avoir des grands frères qui vont surveiller leurs sœurs et leur interdire de sortir, etc. Et au contraire, il déplorait que en 2019, en l'occurrence, une adolescente ne puisse pas avoir la vie qu'elle souhaite mener. Et ce grand frère donc soutient la liberté de sa sœur et par ailleurs a eu ses propos aussi après le procès du meurtrier parce que souvent parfois des gens ont pu lui dire mais pourquoi tu ne te venges pas et il a écrit sur Twitter mais je ne me venge pas parce que je puise ma force dans ma religion qui est l'islam et l'islam est une religion de paix et d'amour. Et c'est grâce à ça que j'ai pu supporter tout ce que j'ai supporté et que je ne suis pas dans la vengeance, mais qu'il attendait que ce soit la justice française voilà, qui puisse rendre justice à sa sœur.
Alors, on va pouvoir redire un mot justement sur la justice et justement notamment dans le cadre du procès de l'affaire Chaïna. Il y a un autre facteur qu'on a évoqué hier brièvement, c'est au travers de l'histoire du frère, c'est cette pression de conformité chez les garçons aussi qui joue l'entraînement mutuel et le fait de l'appartenance à un groupe. Si je ne comporte pas comme la majorité, ça, je suis exclu du groupe.
Oui, je crois que c'est vraiment un élément aussi. En fait, dans ce contexte de violence exacerbée, tout le monde est victime quelque part. Et les garçons sont victimes aussi de ces stéréotypes et des normes qui leur sont imposées, au sens où c'est la norme du groupe, c'est la norme du plus fort, c'est un peu la loi du plus fort. Et ceux qui ne rentrent pas dans cette... dans ces stéréotypes virilistes, on va dire, soit parce qu'ils ne veulent pas se battre, soit parce que ils peuvent être... Alors, c'est pas un sujet que j'ai abordé dans le livre, j'ai pas eu le temps de tout faire, mais il y a beaucoup aussi d'homophobie. Donc, c'est compliqué aussi de s'afficher comme étant un jeune gay dans les établissements scolaires en question. Donc tout ça aussi est très aliénant pour les jeunes garçons, et même aussi tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas montrer leur faiblesse, leurs sentiments. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à une enseignante que j'ai interviewée après d'ailleurs le livre. Malheureusement, je ne l'ai pas eue au moment de l'écriture du livre, mais je l'ai interviewée d'ailleurs dans Charlie Hebdo. Et elle m'a dit, parce qu'elle avait passé 20 ans à Creil, et elle m'a dit quelque chose m'avait marqué. C'est qu'il n'y a pas de petits couples. Alors parfois, dans les établissements scolaires, c'est la gestion de non, faut pas s'embrasser dans les couloirs ou faut pas s'embrasser dans la cour de récré. Là, il n'y a pas du tout ce problème. Parce qu'en fait, il n'y a pas du tout, me dit-elle, hein, de petits couples, il n'y a pas d'histoire d'amour. Les filles et garçons sont séparés et c'est plutôt une forme de lien qui se fait dans la violence ou dans la discrétion, comme je disais, où les adolescentes, quand elles ont un petit ami, il faut qu'elles se cachent, qu'on ne les voit pas parce que ça pourrait être mal perçu qu'elles osent avoir un petit ami à leur âge.
Ce qui veut dire que ce contrôle social, qui a une connotation assez violente, les amène à l'autocensure, finalement, à se contrôler elles-mêmes. Comment ça se passe ?
De fait, c'est une forme de... Oui, c'est une contrainte au quotidien, donc il y a une forme d'autocensure d'essayer de trouver des manières de trouver une autre forme de liberté. Et parfois, c'est tout bêtement géographique aussi. Je parlais, par exemple, de la ville nouvelle, d'un grand centre commercial qui s'est créé pas loin de Creil. Et très étonnamment, là, il y a des... Pour revenir sur la question des cafés, là, il y a des cafés qui sont ouverts. Et là, c'est pas tabou d'y aller. D'ailleurs, il y a une adolescente qui m'a donné rendez-vous à cet endroit-là. Donc, comme quoi, enfin, il y a une chape de plomb à un endroit, et il suffit de prendre un bus 20 minutes, et puis là, ça va mieux. On ne sait pas trop pourquoi, c'est comme ça, c'est établi comme ça. Mais donc, parfois, il y a quelques échappatoires géographiques, pas très loin, voilà.
Alors, on est obligé d'aller vite, puisqu'on s'est dit justement qu'on se donnait le temps de pouvoir que vous ayez un échange avec le public. Très, très rapidement... Est-ce que ces filles qui ont une réputation, elles sont marginalisées dans le groupe d'amis, mais également dans la sphère scolaire, voire le marché du travail ou la société? Est-ce qu'il suffit de quitter l'endroit pour s'y soustraire, quitte à abandonner
Eh bien, oui, certaines, celles que j'ai rencontrées, elles trouvent une perspective nouvelle pour certaines, quand elles vont faire des études, quand ça se donne la chance de faire des études et qu'elles vont aller étudier un peu plus loin, qu'elles vont prendre de la distance avec ça. Et certaines, l'une, Sarah, d'ailleurs, qui est dans mon livre au début, me dit, mais moi, maintenant, je peux aller vers autre chose, mais malheureusement, ma petite sœur, elle vit à nouveau la même chose que moi. Mais elle est assez désespérée de voir que tout ça continue se perpétue. Voilà.
Est-ce qu'il y en a, à votre connaissance, que vous avez pu rencontrer, qui ont réussi à renverser cette réputation, justement?
J'ai pas rencontré toutes les adolescentes de Creil, donc j'espère, j'imagine bien que toutes, je ne dis pas toutes, ont vécu ça. En tout cas, le fait qu'elles me parlent, déjà, c'est qu'elles veulent que ça évolue et c'est qu'elles ont conscience que quelque chose ne va pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis aussi qu'elles rentrent d'une certaine manière comme ça, par ces témoignages dans le mouvement MeToo. Parce que quelque chose m'a marqué, c'est que certains ne connaissaient pas le mouvement MeToo. Ouais. J'étais très surprise de ça et je n'en revenais pas, j'avoue, parce qu'on a l'impression qu'on a tellement parlé de MeToo que tout le monde est au courant. Eh bien, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, il y a le Haut Conseil à l'égalité qui a publié un rapport qui montre que 14% de la population n'en a pas entendu parler. Et ce qui doit tous nous interpeller sur une sorte de fracture, à la fois au niveau de l'information, ça veut dire que les gens parfois ne s'informent pas, donc si on ne lit pas du tout de journaux, on n'y a pas accès. Et voilà. Et pour autant, Et aussi, voilà, donc le fait que des endroits soient dans une forme de relégation où ils ne se sentent pas concernés par le féminisme, où le féminisme n'est pas venu à elles. Quelque part, le MeToo, c'est quoi ? C'est le fait de prendre la parole, de raconter ce que l'on a subi et d'être écouté. Puisque les femmes ont parlé pendant longtemps, mais sans forcément être écoutées. D'une certaine manière, je me dis que ces adolescentes, elles rentrent dans le mouvement MeToo, justement, en le dénonçant ce qu'elles ont subi.
Est-ce que au-delà de ça, il y a quand même des stratégies de résistance ? Est-ce qu'elles arrivent à s'organiser, à trouver des relais ?
Oui, heureusement, il y a des choses de fait quand même. Il y a des associations qui sont présentes, pas assez, parfois pas forcément avec beaucoup suffisamment de moyens. Parfois, malheureusement, des associations qui reproduisent certains stéréotypes je pense par exemple à un éducateur de rue qui lui-même remettait en cause l'agression de Shaïna en prenant un peu le parti d'amis à lui ou de connaissances qui remettaient en cause la parole de Shaïna. Donc c'est important que les relais, les personnes ressources, les éducateurs, les personnels des associations soient formés pour répondre pour prendre conscience de ces sujets-là et pouvoir y répondre.
Donc effectivement, il y a bien la question des moyens, de la formation des professionnels qui interviennent, qui en fait partie. Je pense qu'on pourrait développer aussi sur la formation des policiers qui prennent des plaintes, des magistrats qui traitent les affaires. Et j'aurais probablement une question là-dessus. J'aimerais qu'on prenne un instant sur justement la question des médias. Déjà, quel regard la journaliste que vous êtes porte-t-elle sur le traitement médiatique des violences faites aux femmes ?
Alors, les violences faites aux femmes. Alors, j'ai fait partie d'une association qui s'appelait Prenons la Une, qui s'appelle toujours Prenons la Une. Et pour le coup, je peux être un peu positive là-dessus parce que ça a grandement évolué, heureusement, sur le traitement médiatique. Justement, concernant les féminicides, il y a encore pas très longtemps, on parlait de crimes passionnels. Et le crime passionnel, symboliquement, c'est pas la même chose parce qu'il y a l'idée que le meurtrier est mué par la passion, n'a pas pu s'empêcher quelque part d'assassiner sa compagne. C'est important d'avoir les bons mots et donc le terme de féminicide permet de donner à voir ce dont il s'agit et aussi de mettre en perspective et de montrer, de comptabiliser. Par exemple, à partir du moment où on a parlé de féminicide, on a aussi comptabilisé chaque année, les pouvoirs publics ont comptabilisé, on peut il y a un rapport de force pour essayer que ça diminue et avoir plus de moyens pour être dans la prévention de ces violences-là. Donc, pour revenir à la question, ça a évolué quand même, la manière dont on en parle aujourd'hui, médiatiquement. Après, ça dépend des médias, il faudra faire une analyse plus poussée aussi. Ça dépend des médias et il y a encore du travail à faire, certainement, pour la manière de traiter de ces sujets-là.
Il y a une question que je me pose, et je pense que je suis loin d'être le seul, c'est dans le cas de l'affaire Shaïna, dans un premier temps, elle est passée complètement sous le radar des médias. Ça n'a pas du tout été, ou très brillant, enfin très, très, très peu. Voilà, donc pourquoi ça, selon vous, et puis surtout, qu'est-ce que ça révèle, quoi ?
Alors c'est vrai que moi en tant que journaliste, je suis toujours surprise, c'est toujours un peu mystérieux de savoir pourquoi on parle d'un sujet ou pas. Il n'y a pas forcément non plus, il ne faut pas non plus y voir une volonté de cacher tel ou tel sujet. Parce que parfois, c'est vraiment le hasard de l'actualité qui est à ce moment-là. Là, en l'occurrence, il y a plusieurs éléments. C'est des hypothèses, mais c'est vrai qu'au moment de l'assassinat, il y a eu une marche blanche à Creil. Mais ça n'a pas pris un impact national parce que très vite, il y a eu le Covid. Et le Covid a tout éteint, comme on le sait. Et par ailleurs, peut-être qu'il y a aussi, comme je disais au début, une plus grande difficulté à s'emparer des sujets des violences faites aux femmes dans les quartiers populaires aujourd'hui. Il y a beaucoup de féministes qui préfèrent parler des violences faites aux femmes de manière globale. Je l'entends aussi, parce que c'est vrai que c'est global, que c'est partout, et que c'est bien aussi de montrer que c'est partout. Et pour autant, voilà, ne pas s'interdire de parler de certaines spécificités pour ne pas non plus passer sous silence ces spécificités-là. En l'occurrence, la réputation, ce contrôle des corps est tout de même plus spécifique dans certains quartiers que dans l'ensemble de la société.
Alors, on voit bien... vous entendre, je ne sais pas si on peut voir, entendre, mais vous m'avez compris, dans vos propos, que cette fabrique de la réputation, c'est effectivement multifactoriel. Il y a les questions religieuses, la culture familiale, la culture du pays, etc. Ça ramène à la question, finalement, de comment on déconstruit tout ça, le rôle de l'éducation. Quel rôle, selon vous, doit jouer l'éducation dans justement cette déconstruction et dans la construction d'une sexualité respectueuse?
Eh bien, c'est un rôle primordial. C'est vrai que je consacre d'ailleurs un chapitre, un sujet qui peut sembler éloigné de ça, mais et qui, je pense, est important, c'est l'éducation affective et sexuelle dans les établissements scolaires. Et j'ai pu assister à plusieurs de ces séances dans un établissement de Creil. Et j'ai pu me rendre compte combien c'était important, surtout dans un endroit où les adolescents n'osent pas forcément en parler dans leur famille. D'ailleurs, c'est le cas partout, ça. C'est toujours un peu compliqué de parler de ça dans les familles. Et je pense que l'école a un rôle important à jouer sur ces sujets. Et c'est malheureusement un sujet qui fait l'objet de beaucoup de fake news. On sait qu'il y a eu les journées de retrait de l'école en 2014 qui ont abouti à la... au retrait des ABCD de l'égalité. Et puis là, malheureusement, ça reprend à nouveau des appels à ne pas envoyer ses enfants à l'école pour contester les nouveaux programmes qui sont mis en place. Et en plus, c'est bien parce que pour une fois, il y a des programmes, il y a une réflexion au niveau national sur qu'est-ce qu'on va dire en fait dans ces séances-là. Et évidemment, c'est des séances qui sont adaptées à chaque âge. Et encore aujourd'hui, dans l'intervention que j'ai faite tout à l'heure dans l'association, ça m'a vraiment désolée parce que je voyais bien qu'il y avait des fake news qui étaient propagées, que des mères de famille croyaient dur comme fer qu'on allait parler de sexualité à des enfants dès la maternelle, alors qu'il s'agit uniquement de parler... D'ailleurs, ce n'est pas d'éducation sexuelle à la maternelle, c'est de l'éducation affective pour... apprendre à respecter l'autre, apprendre à respecter son corps, apprendre à savoir dire non, aussi pour prévenir l'inceste, donc savoir dire non à un adulte ou repérer aussi quand il y a une situation qui n'est pas normale. Voilà, donc c'est tout ça. Et moi, dans le reportage que j'ai pu faire dans une classe qui avait ces séances-là, ça montre la situation bien concrètement, parce que par exemple, le petit groupe de garçons qui suivait cette séance, dans ce petit groupe, il était question de consentement, parce que c'est un des sujets qui est abordé justement au collège, à la fin du collège. Et l'animatrice dit au garçon, comment sait-on si sa partenaire est consentante? Et là, le garçon répond, eh bien, on le sait quand elle ne se débat pas. Et alors, voilà, on voit l'image qu'a en tête et les stéréotypes qu'a en tête ce garçon. Et c'est intéressant qu'il puisse en parler à ce moment-là et que l'animatrice puisse rentrer dans un échange avec lui et lui expliquer un certain nombre de choses. Et je pense que ça permet aussi d'éviter des futures agressions sexuelles. Et je pense que voilà, c'est important. Et du côté des adolescentes, c'était une occasion pour elles de libération de la parole. Ça m'a beaucoup impressionnée aussi parce que les 9 filles qui assistaient dans un groupe avaient toutes vécu des violences. Que ce soit du cyberharcèlement jusqu'à la tentative de viol pour l'une d'entre elles. Et c'était le moment où elles pouvaient enfin en parler à un adulte, avoir un adulte qui puisse les conseiller, faire des signalements si nécessaire, les orienter vers des personnes qui soient en mesure de les aider. Et ça, c'est vrai que si l'école ne... Je sais qu'on demande beaucoup de choses à l'école, mais il me semble vraiment que c'est aussi le rôle de l'école, parce que toutes les familles ne peuvent pas parler de ça, ou parfois c'est très tabou, ou enfin, ils n'osent pas en parler, et aussi les enfants, les adolescents ne vont pas forcément oser discuter de ça avec leurs parents. Et là, c'est une tierce personne qui n'est pas forcément d'ailleurs l'enseignant, qui est une personne extérieure, ça peut être une infirmière scolaire, une animatrice au planning familial, etc., qui recueille cette parole-là.
Alors effectivement, et on pourrait dire si les textes ne sont pas très appliqués, hein, c'est ce que vous dites dans l'ouvrage notamment, et à ma connaissance, c'est 3 heures de cours par an face à la situation, c'est quand même totalement dérisoire.
Ce serait bien si c'était appliqué.
Oui, alors déjà.
Déjà, la loi, c'est 3 heures par an, et ce n'est pas du tout appliqué. Il n'y a que 15 à 20% des élèves qui ont accès à ces cours-là.
Alors qu'en face, alors j'ai pas de chiffres en tête, peut-être que vous l'avez, il y a la plupart des jeunes à partir de 12 ans un accès quasi à gogo à la pornographie, donc on peut dire que c'est parfois le premier contact avec la sexualité. Donc 3 heures par an, même si c'est appliqué.
Ça fait autant d'heures que de ce qu'ils vont comme film porno.
Mais
c'est vrai que c'est une situation à prendre en compte, parce que ce que je dis dans le livre, c'est qu'il y a une sorte de cocktail explosif où d'un côté, ce sont des familles, des adolescents qui évoluent dans des familles souvent très rigoristes, où c'est totalement tabou de parler de sexualité. Et dans le même temps, ils vont avoir accès à du porno de manière assez décomplexée, sans aucun référent pour pouvoir parler de ce qu'ils ont vu, de ce qui les a choqués. Et ils ont accès extrêmement jeunes, sans avoir la possibilité de mettre à distance ce qu'ils ont vu. L'âge d'accès au porno aujourd'hui est de 10 ou 12 ans. Et je crois qu'à 12 ans, je n'ai plus non plus les chiffres précis en tête, c'est dans mon livre, à 12 ans, je crois 50% des garçons de 12 ans ont du porno, donc c'est vraiment très très jeune, et voilà, donc c'est ce cocktail explosif. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de d'hémiplégie, parce que des adultes qui veulent pas qu'on parle de ces sujets-là, mais en même temps, leurs gamins, ils ont vu ces sujets-là, et ils ont vu de la violence, donc autant mettre le sujet sur la table, et il faudrait déjà qu'ils ne puissent pas avoir accès au porno, parce que les plateformes, c'est un combat des associations féministes d'ailleurs, hein, pour que les plateformes soient plus vigilantes là-dessus. Mais voilà, en tout cas, pour revenir aux séances d'éducation affective et sexuelle, c'est aussi pour prévenir et pour faire en sorte que les gamins ne fassent pas leur éducation sexuelle, en gros, avec le porno qui est extrêmement violent, et que si malheureusement ils tombent dessus, ils aient de quoi mettre à distance et comprendre que ce n'est pas la réalité.
Alors, avant de vous demander si vous souhaitez réagir, prendre la parole, etc. Je cite, je l'ai fait hier et je trouve que c'est intéressant en lien avec ce sujet. Il y a un film documentaire qui s'appelle Classe Libre. Il y a un monsieur qui s'appelle Didier Valentin, dont le nom très connu sur Internet est Docteur Capote, on ne peut pas l'oublier, avec un K à Capote, et qui est un éducateur qui travaille depuis près d'une vingtaine d'années auprès de jeunes dans les établissements scolaires, justement sur cette déconstruction. Et c'est assez édifiant et assez intéressant. Donc si vous avez envie d'approfondir un peu sur le sujet, je vous suggère cet ouvrage. Je vais vous préciser une petite chose. On va faire circuler un micro dans la salle. Les micros qui sont devant vous ne sont pas branchés. Ça me permet de vous dire que cette soirée est enregistrée et va faire l'objet d'un podcast sur le site de nos amis de Memaudio, M-E-M-A-U-D-I-O, qui suit très fidèlement depuis maintenant pas mal d'années. Bonsoir Luis, tout au fond de la salle, qui enregistre cette soirée et qui relaie très fidèlement, très régulièrement, beaucoup des sujets, des soirées, des chemins de la République, mais pas que. Donc je vous invite aussi à aller voir sur ce site.
Même audio, une mémoire sonore.
Si vous le souhaitez, uniquement si vous le souhaitez, mesdemoiselles de Brax, j'aurais bien aimé vous demander comment vous avez envie de réagir. Est-ce que vous avez des questions particulières à poser, ou comment vous réagissez à cette histoire?
Bonsoir et merci beaucoup. Je trouve que c'était très intéressant l'histoire de Shayna. Et j'en avais déjà entendu parler, mais pas autant. Du coup, je suis très contente d'avoir entendu cette histoire, et c'est très triste, et voilà.
Mais merci d'être venu en tout cas ce soir. Ça me touche beaucoup que vous ayez pu venir, parce que c'est vrai que le sujet, c'est sur les adolescentes, et vous êtes encore toute jeune, mais je sais que c'est... Donc bravo à vous d'être venu.
Désolée, du coup, je suis touchée. Merci à vous, parce que c'est vrai que c'est pas facile disons, d'aborder ce sujet d'une manière aussi violente au final, parce que l'histoire est violente, ce qui s'est passé, c'est aussi cru, et il faut savoir poser les bons mots sur ce qui s'est passé sans contourner le problème. Donc vraiment, je suis très heureuse et émue qu'elle ait répondu présente. Pour ma part, j'ai une question par rapport, disons, vous avez parlé aussi de ces rumeurs qui prennent beaucoup d'ampleur. Et moi, je me questionne sur la responsabilité justement des éducateurs tout autour. Et j'aimerais savoir si vous avez pu constater ou vous heurter, disons, à disons, un moment où ils ont décidé de lâcher prise et de se dire non, c'est plus de notre responsabilité. Alors qu'en fait, c'est de la responsabilité de tous. Et de se dire à quel moment justement... comment ça arrivait que ça prenne cette ampleur-là? Parce qu'on est, enfin même nous, dans les yeux d'un éducateur, c'est très très dur de se dire de rester à l'écoute de ces jeunes, d'être là pour eux, d'être de donner aussi de la place à ces discours-là, sans dépasser finalement une certaine posture professionnelle. Et voilà, moi je m'intéressais par rapport à ça finalement, notamment sur le cas de Shaina, mais aussi grâce à vous, à toutes ces adolescentes à qui vous avez pu porter la parole. Voilà, merci.
Merci pour votre question. Oui, c'est une question importante. Il y a plusieurs manières de réagir en ce qui concerne les éducateurs. Et je repense, je donnais cet exemple tout à l'heure, où en fait il y a des éducateurs malheureusement qui ont pu propager eux-mêmes des rumeurs, ou en tout cas ne pas y mettre fin, parce que malheureusement il y a pas mal y a des personnes qui ne sont pas suffisamment formées ou qui sont trop impliquées eux-mêmes dans ce système-là, qui sont eux-mêmes issues de tel ou tel quartier, et qui vont prendre la défense des garçons. Et il y en a un qui m'a dit « Ah non, mais Shaina avait menti concernant son agression. » Voilà. Donc, du point de vue d'un... Que ce soit la parole d'un éducateur qui reproduit ça, c'est effectivement assez inquiétant. Et je pense aussi au témoignage d'une enseignante qui, pour le coup... en fait, je pense que, en fait, a posteriori, tout le monde a eu des regrets de ne pas avoir perçu suffisamment à temps, et peut-être aussi qu'il n'y avait pas suffisamment conscience de ce que signifient ces rumeurs et de l'impact que ça peut avoir. Et en l'occurrence, cette prof me disait, ben, j'avais entendu des élèves qui, dans une sortie scolaire, qui parlaient entre eux de Shaina, qui en parlaient en des termes très méprisants. Et puis j'avais laissé courir parce que, ben, voilà, malheureusement aussi, les profs ont fort à faire. Et donc, voilà, elle regrettait, elle me disait, j'en ai entendu parler et j'ai rien dit. Et voilà, en même temps, chacun, enfin, elle n'est pas responsable, hein, mais effectivement, plus globalement, je pense que d'avoir conscience de ce système-là et de l'ampleur de l'impact de ces rumeurs, et aussi peut-être être vigilant aussi sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que ça passe beaucoup par, c'est amplifié par les réseaux sociaux. À une époque, ça pouvait être à l'échelle d'un village ou à l'échelle d'une classe dans un établissement. Là, c'est à l'échelle d'un établissement entier avec les réseaux sociaux, voire d'un établissement à l'autre. Et d'ailleurs, je sais qu'à Creil, il me racontait qu'il y avait un compte Instagram qui avait été créé exprès, qui était public, où plusieurs garçons déversaient des photos de leurs petites amies toutes nues, soit pour se vanter, soit pour se venger d'elles. Et donc c'était devenu le déversoir comme ça sexiste. Et donc ça démultipliait comme ça les réputations de ces adolescentes. Et fort heureusement, le compte a été fermé. Mais voilà, ça fait partie des éléments sur lesquels les adultes peuvent être vigilants. Et je ne sais pas si vous-même, vous avez... Bon, peut-être que c'est délicat parce que prendre la parole comme ça, mais peut-être que certaines d'entre vous ont entendu aussi les filles qui sont victimes déjà de réputations, de rumeurs, ou des garçons aussi d'ailleurs. Tant mieux si ce n'est pas le cas. Tant mieux.
Merci, monsieur, d'avoir patienté.
Oui, non. Je voulais intervenir parce qu'on a, à partir du cas de Shaina, un petit peu décrit les comportements de l'islam, enfin des musulmans et de la civilisation des quartiers et de ça. Alors que j'ai le sentiment que il faut pas se fixer sur ce type de comportement de cette religion. Nous, notre grand personne, qui notre grand personnage qui avait la réputation, s'est dégringolé de son piédestal d'une manière catastrophique. Je veux parler de l'abbé Pierre. Et effectivement, tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau des procès dans les écoles libres de Pau, par exemple, c'est quand même aussi l'un des histoires qui ont été couverts par rapport, je dirais, à tous les rumeurs, puisque 20 ans après, on révèle un certain nombre de choses qui font que on n'a pas tellement à montrer ou à donner d'exemples, ou à, enfin, on a quand même à rééquilibrer un oui. petit peu ce genre de comportement. Et j'aurais voulu savoir, moi, comment la révélation de ces choses-là dans les milieux des quartiers ont eu, je dirais, un impact d'une certaine manière, en disant, je dirais, en gros, c'est aussi peut-être un renforcement d'un certain nombre de gens qui se disent droits et purs, en disant, ben, regardez, les chrétiens, ils sont pires que nous, quoi. Il y a effectivement quelque chose qu'il faudrait voir beaucoup plus au niveau des bases de violence générales qui peuvent s'établir, au niveau en ce moment aussi des histoires de harcèlement d'enseignants sur des jeunes qui se suicident. Enfin, c'est quand même tout un monde qui est quand même, je dirais, qui pose question, et dans lequel il ne faudrait pas réduire à des comportements un peu particuliers du monde musulman.
Je vous suis tout à fait, et je ne pense pas du tout l'avoir réduit. Et à chaque fois que je fais une conférence, quelqu'un réagit comme ça, donc je suis habituée. Mais à aucun moment je ne réduis à ça, et c'est un des éléments, un des facteurs. Et si j'en parle, c'est parce que j'ai fait ce choix de parler de ce cas, de ce quartier, et que c'est venu des témoignages que j'ai eus. Donc à l'inverse, je ne vais pas taire ces témoignages et taire le vécu de ces adolescentes ou même de ces mères de famille qui me disent on a l'impression d'être surveillée par l'imam ou d'avoir l'imam qui rappelle des interdits, etc. Mais bien évidemment, moi je travaille à Charlie Hebdo, régulièrement on étrille la religion catholique, on a même des procès avec des représentants de la religion catholique, et loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a des problèmes que dans les quartiers populaires. Vraiment, je le redis dans le livre. Après, dans des enquêtes, on fait des choix, et je ne peux pas faire une enquête sur l'ensemble du sexisme. Enfin, je pourrais aussi. Il y a des enquêtes qui sont très bien faites là-dessus. Là, c'est une loupe sur un endroit en particulier. Par ailleurs, dans mon travail, il se trouve que j'ai dernièrement suivi le procès Mazan. Donc, j'ai parfaitement conscience, si vous voulez, que les viols, c'est vraiment partout. Là, il y a eu 51 personnes de tout milieu qui venait de différents endroits, de différentes histoires de vie, et qui se sont cru autorisés à venir violer Gisèle Pellicot quand elle était assommée de médicaments, droguée par son mari. Vous connaissez tous l'histoire. Donc je sais très bien, et il n'y a pas de difficulté. Enfin, si vous voulez, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Et en même temps, c'est toujours un cercle vicieux, parce qu'à la fois on dit c'est partout, et en même temps je dis oui, c'est partout, et c'est aussi dans cet endroit. Voilà, et juste j'explique ce qu'il y a dans cet endroit. Et dernièrement, puisque je parle de mes articles, j'ai aussi fait un petit article sur un podcast qui s'appelle Révolution des cœurs. Et c'est une jeune femme qui s'appelle Soraya, et là pour le coup elle-même assume et revendique de faire, et j'en parle parce que c'est vraiment un de mes derniers articles, mais elle dit, elle est issue d'une culture arabo-musulmane, et elle dit je veux donner la parole, enfin moi j'ai vécu dans ma famille un certain nombre de contraintes, moi dont je parle dans le livre aussi, et elle donne la parole à d'autres personnes concernées par le même sujet, et elle fait même le choix de ne donner la parole qu'à des personnes de culture arabo-musulmane, et elle commence tout juste son podcast, hein, donc elle a quelques témoignages, et c'est des témoignages de jeunes femmes qui disent moi je dois me taire si je suis amoureuse d'un non-musulman, ma famille ne l'accepterait pas. Ou des femmes plus âgées qui disent, moi, à l'époque, je devais donner des certificats de virginité. Voilà, donc tout ça, je trouve que le féminisme, c'est important que le féminisme donne la parole à toutes ces personnes-là, et qu'effectivement, on n'oppose pas les uns aux autres. Et j'essaye vraiment de ne pas le faire, et c'est pas mon objectif de le faire. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, dans le débat public, c'est délétère, parce que d'une certaine manière, il y a ceux qui vont ne faire que dénoncer l'islamisme, et puis ceux qui vont ne faire que parler du sexisme et des violences opérées par l'abbé Pierre, PPDA, etc. Et c'est comme si l'un ne voulait pas voir l'autre, et alors que tout ça, ce sont les mêmes logiques, effectivement, à l'œuvre. Logique patriarcale, évidemment.
Voilà, et je me permettrai de rajouter, je crois qu'on a mentionné de toute façon tout à l'heure, si Laure avait pris un sujet plus historique, j'évoquais les filles mères dans les campagnes françaises, je pense que les mêmes mécanismes que ceux qui sont révélés dans son ouvrage sont également en marche, que ce rigorisme religieux et d'une autre religion a exactement la même influence que ça. Donc il ne faut vraiment pas le limiter, surtout pas amener ce propos sur ce terrain-là. Alors je crois qu'il y a une autre question au fond.
Bonjour. Déjà, moi, je voulais savoir c'était quoi votre regard sur les femmes, notamment la personne de Laetitia dans l'ouvrage, et plus globalement les filles et leur rôle qu'elles peuvent avoir dans le processus de stigmatisation d'autres filles. Parce que c'est quand même quelque chose d'important, je trouve, dans toute cette affaire. Et ensuite, est-ce que vous ne pensez pas que toute cette situation, elle est due aussi à beaucoup de situations dans les quartiers populaires de misère affective pour les jeunes adolescents et donc peut-être plus de difficultés ou plus d'attentes vis-à-vis de leurs relations ? Merci.
Merci pour votre question. Oui, c'est ce personnage de Laetitia. Effectivement, je crois que c'est une amie qui est censée être une amie de Shaina et qui va elle-même reproduire ce stéréotype de fille facile. Et en effet, on pourrait s'attendre à espérer une forme de sororité entre les filles, et on ne peut que constater que des filles perpétuent aussi cette violence, et il y a une forme de violence entre filles. Mais je ne vais pas leur jeter la pierre, parce qu'en fait, ce système est tellement difficile qu'il est très difficile d'arriver à une sororité et de mettre à distance ces injonctions. Et que pour certaines filles, c'est plus simple peut-être de faire corps avec ces interdits, avec ces injonctions, et de hurler avec les loups d'une certaine manière. Et s'il y a une fille qui est stigmatisée, qui a des rumeurs, et de reproduire aussi ces rumeurs. C'est beaucoup plus dur, mais de manière générale, dans un groupe, de couper court à des rumeurs, de dire attention, réfléchissons, posons-nous, est-ce que ça est vrai ? C'est plus facile, surtout quand on est adolescent, qu'on est en recherche d'amis. Les sociologues expliquent qu'à l'adolescence, c'est plus simple de faire partie de la norme. Et si la norme, elle est définie souvent par les lois du plus fort en plus, donc on va se conformer à cette norme. Et donc c'est pour ça que voilà, des adolescentes, des filles aussi, on arrive à reproduire cette violence-là. Et vous avez raison aussi sur le fait que, comme je disais tout à l'heure, il y a un tabou en fait sur les relations amoureuses, finalement sur les relations sentimentales. Et cette prof me disait, je ne voyais jamais de petits couples dans les cours de récré. C'est comme si c'était interdit de s'aimer. Il faut s'aimer en cachette. Et donc il n'y a que des relations finalement de violence qui surnagent et qui apparaissent. Et oui, il y a certainement une misère affective, oui.
Alors, d'autres questions, madame. J'ai cru voir un signe, mais je ne suis pas sûre. Vous vouliez le micro.
Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avoue, comme à chaque fois, que finalement, j'ai un constat des impacts et des effets du système patriarcal dans lequel on vit. Ça me met extrêmement en colère. Et là, je crois que je suis encore plus en colère parce qu'on est dans un bâtiment d'une institution publique. Et en fait, dans vos propos, j'entends aussi que, en tout cas, le sentiment que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de volonté réelle de l'État français de faire en sorte que les choses changent réellement quand il manque de moyens dans l'éducation nationale, dans les associations. Et on voit bien qu'il y a des pays, notamment les pays scandinaves, qui sont vraiment emparés du sujet et que ça peut avoir un vrai impact. Donc en fait, ma question, c'est quel regard en fait vous portez sur la volonté politique ? Est-ce que vous êtes optimiste sur cette thématique-là ? Merci.
Alors, moi, je vais parler Côte Creil parce que je n'ai pas enquêté partout ailleurs et je ne veux pas sortir de mon domaine de compétences, pour le coup. En ce qui concerne Creil, c'est sur la volonté politique, je dirais, ça dépend quelle institution. La mairie, je pense, a laissé faire pas mal de choses et n'a pas été suffisamment volontaire sur un certain nombre d'actions à mener. En revanche, si on prend au niveau ce que j'ai pu constater au niveau de l'éducation nationale, la plupart des établissements sont en REP+, ce qui permet d'avoir un certain nombre de moyens, et il y a une équipe éducative qui est la plupart du temps très motivée et qui a jamais suffisamment de moyens, mais qui peut quand même agir et qui essaye d'agir. En revanche, au niveau des associations, je dirais que c'est assez compliqué. Comme je disais, il y a beaucoup il y a pas assez de moyens, où les personnes ne sont pas suffisamment bien formées, et donc il y a des relais associatifs qui sont pas forcément à la hauteur. Voilà, donc moi je suis une casquette de journaliste, donc je suis là plus pour porter les constats, et après les solutions politiques, je les ai pas forcément, malheureusement. Et voilà, mais en ce qui concerne de Creil, alors aussi la place du service public, je donne l'exemple de, alors ça peut paraître éloigné, mais la maternité de Creil qui a fermé pour des raisons économiques, et ça, c'est symboliquement, ça a montré aussi au bassin creillois que finalement ils n'étaient pas enfin, comment dire, on pouvait faire des économies sur leur dos. Alors que la maternité, c'est au-delà d'une maternité, c'est aussi un lieu pour lutter contre les violences faites aux femmes, c'est aussi un lieu pour pratiquer des IVG. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans le livre, je me suis fait passer pour une adolescente qui aurait voulu pratiquer un IVG à Creil. Et c'était très compliqué parce que j'ai appelé le numéro vert du gouvernement. Ça, c'est un numéro vert voilà, qui est intéressant aussi à connaître, et pour avoir une adresse. Et pour le coup, là, c'était pas à jour parce qu'on m'a donné l'adresse de la maternité qui venait de fermer. Et donc déjà, c'est une mauvaise info. Et après, on me dit, ah ben non, mais vous pouvez aller à Senlis. Sauf que Senlis, c'était à 20 minutes en voiture et il n'y a aucun transport en commun. Et donc, si je suis une adolescente qui n'a pas le permis, qui ne peut pas parler à ses parents de son projet d'IVG, et ben ça devient très compliqué. Et après, autre possibilité, c'est un médecin en ville, parce que c'est pratiqué aussi maintenant avec les pilules abortives par un médecin en ville. Il y avait pendant un moment un réseau de médecins qui était à relais pour ça. Et ben là, on me donne un contact d'un médecin. Ah, ben il avait disparu, il avait déménagé à Beauvais, qui est beaucoup plus loin. Et voilà, ça fait partie aussi de tous ces problèmes-là. Il y a un désert médical aussi dans le bassin creillois. Donc voilà, je vous donne un exemple aussi concret pour montrer qu'il y a une déliquescence effectivement de l'aide qui peut être apportée à ces adolescentes.
Est-ce que d'autres réactions ? On peut aussi se dire qu'on s'arrête là et qu'on s'attarde dans la salle à côté, où l'on pourra peut-être échanger un peu, dédicacer quelques ouvrages si vous le souhaitez. Alors, il me reste à remercier l'équipe technique du conseil départemental. Vous ne les voyez pas, mais ils sont derrière les vitres là-haut. À nouveau, Louise qui s'occupe de l'enregistrement. Et bien entendu, Laure, d'avoir fait une visite, pas marathon, mais quand même bien occupée. On a bien géré l'emploi du temps. Voilà, donc merci à vous d'être parmi nous une nouvelle fois et sur ces deux soirées. Et puis surtout, merci à vous toutes et tous d'être venus. Je vous invite à regarder le site du Conseil départemental ou nos réseaux sociaux. Il y a toute une programmation sur l'égalité femmes-hommes, sur la lutte contre les discriminations, sur les valeurs de la République, les questions de laïcité, etc., etc., qui sont portées par un certain nombre de services de cette collectivité. Vous tapez conseildépartemental.fr et plus particulièrement vous pouvez aller sur Chemin de la République et vous trouverez toute la page avec la programmation. Merci à vous, très bonne soirée et à bientôt, j'espère. Et merci à toi.
Même audio, une mémoire sonore. Bow, 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 bow.